Bonjour à toutes et à tous, Mémoire Avéronnaise sur CFM Rodez, c'est tous les 15 jours à cette heure-ci évidemment, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent qui est président du comité Rodez du souvenir français.
Et oui.
40e émission, Vincent, de Mémoire
Avéronnaise. Et oui, happy birthday to you.
Oui.
Enfin, ou to me, je sais pas. Ou to you, puisque c'est à vous, c'est votre émission aussi.
Voilà. Bon, j'ai pas fait de gâteau, hein, parce que ça aurait pas été.
Bon, je m'en vais. Au revoir.
Mais en tous les cas, bravo, Vincent, pour ces émissions 40e aujourd'hui et toutes les précédentes.
Merci, bravo à toi aussi de me supporter. Hein.
Bon, c'est un plaisir pour moi. Toutes les émissions précédentes sont à retrouver et écouter quand vous voulez via le site cfmradio.fr, onglet Mémoire Avéronnaise. Alors, pour cette 40e, Vincent, quel est
40e,
le...
et en plus, je précise, ouais. Dernière avant les vacances.
Tout à fait. Des vacances bien méritées en ce qui te concerne, Vincent. Mais enfin, tu reviens à
toi aussi, je pense. Oui, promis.
Ok. Donc, le sujet aujourd'hui, cette semaine, c'est quoi ?
Est-ce que tu as révisé ton catéchisme ?
Oh non, non, Vincent, non, non.
T'as du souvenir quand même.
Ouais, mais léger.
J'ai pas vérifié en arrivant. Est-ce que tu as pris de bonnes chaussures de marche et un bon sac à dos ? Le sac à dos, j'ai pas vu, mais est-ce que tu as de bonnes chaussures de marche ?
Des chaussures de marche, ouais, je marche pas beaucoup, mais enfin j'en ai. Et le sac à dos.
Mais sur toi ou pas ? On peut y aller ?
Ouais, ça doit pouvoir se faire, ça dépend dans quoi tu m'emmènes comme marche.
Alors, en ce début de vacances d'été, je vous amène aujourd'hui sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Ah ouais.
Donc nous avons une très jolie partie. En Aveyron.
Et oui, tout à fait. Mais attends, ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle, donc tu vas nous présenter ce pèlerinage d'une certaine façon.
C'est ça, tout à fait. Je vais vous parler de tout ce qui concerne le... Enfin, tout. Beaucoup de choses qui concernent... Peut-être pas tout, hein, dans le peu de temps qui nous est imparti. Mais beaucoup de choses voilà, qui concernent le et les chemins de Saint-Jacques.
Bah voilà, parce que ce que j'allais dire, tu nous dis l'Aveyron. Ouais, je suis bien d'accord, parce qu'on en voit des randonneurs.
Ah oui.
Des pèlerins passer sur le département. Mais le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est les chemins.
Alors on va
ils passent pas voilà, tous par l'Aveyron.
On va détailler tout ça.
Bon, je t'écoute.
Accroche-toi.
Oui.
Et accrochez-vous, chers auditeurs, parce que suivant le chemin que nous allons prendre, nous allons mettre entre 1750 et 1460 km pour rejoindre Saint-Jacques. Donc c'est pour ça que je te demandais si tu avais des bonnes chaussures.
Oui,
intérêt.
Effectivement, ça.
Attention aux ampoules.
Oui.
Alors moi, je suis très content de vous parler de ce chemin aujourd'hui parce que c'est un chemin que je connais très bien. Je l'ai moi-même fait 3 fois.
Du début jusqu'à la fin ?
Du début jusqu'à la fin.
Bravo.
En entier.
Oh bah, bravo.
Et à pied.
Bravo.
Donc voilà, je suis vraiment très très heureux de vous en parler.
Ah ouais.
Je cherchais en cette veille de vacances, certains sont déjà en vacances, j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez ludique que vous puissiez faire, pas en entier, on va voir, on peut faire ne serait-ce qu'une journée ou plusieurs jours.
Oui, voilà, c'est plutôt ça souvent.
C'est vraiment beau, c'est vraiment quelque chose de ludique. Donc voilà, ce début d'été, si ça vous donne des idées, surtout n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Alors, je vous parlerai tout à l'heure du chemin de Saint-Jacques et de l'Aveyron, etc. Pour commencer, en fait, je vais vous présenter Saint-Jacques et également l'histoire du chemin. Mmh. Alors Saint-Jacques, lui, est un des apôtres du Christ.
Ah bah, ouais, ouais.
Alors il faut faire attention car il y a deux apôtres Jacques.
Et il y a deux Jacques.
Il y a Jacques le mineur,
ouais.
Et il y a Jacques le majeur.
Et oui.
Celui qui nous intéresse, c'est Jacques le majeur, fils de Zébédée et frère de l'apôtre Jean.
D'accord.
Saint-Jean l'évangéliste.
Lequel de Jean ? Parce que là, c'est pareil.
L'évangéliste.
Hein, d'accord.
Voilà. Alors, dans les évangiles, justement, les deux frères habitent Capharnaüm, en Galilée, et ils vivent de la pêche sur le lac de Tibériade.
Uh-huh.
Jacques rencontre Jésus lors d'un retour de pêche, en compagnie de son frère Jean, de Simon qui deviendra Pierre, et de son frère André. Ces quatre pêcheurs seront les tout premiers disciples du Christ qu'ils suivront partout jusqu'à la fin. Toujours d'après les évangiles, après avoir reçu l'Esprit-Saint lors de la Pentecôte, les apôtres partent aux quatre coins du monde connu pour apporter la parole de Jésus. L'apôtre Jacques, le majeur, lui, quitte la Terre Sainte pour prêcher en Occident.
Uh-huh.
Il débarque chez les Ibères.
Les Espagnols.
Les Espagnols, voilà, tout à fait.
D'accord.
Cette tentative de conversion va pas très bien se passer, elle va plutôt mal même se passer.
Ouais.
Il s'en va, il retourne en Palestine, et là, en fait, c'est le début des persécutions contre les chrétiens, contre les disciples du Christ. Saint Jacques est arrêté et décapité sur ordre du roi Hérode. Il avait bien fait de rentrer chez lui, pauvre. Il est le premier martyr de la chrétienté.
Ah d'accord.
Le tout premier.
Ok.
Sa dépouille est recueillie par ses compagnons et chargée à bord d'une barque guidée par un ange.
Oui.
Voilà.
Qui va l'emmener où?
Alors, justement, l'embarcation franchit le détroit de Gibraltar avant de s'échouer sur les côtes de Galice, près de l'actuel village de Muxia. On va en reparler de ça.
Mais ça, excuse-moi, Vincent, ça...
C'est dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament.
D'accord, hein, mais dans le Nouveau Testament, il parle de la Galice et tout ça?
Alors, je
suis pas sûr, hein.
Non,
c'est les textes autour.
C'est pas le Nouveau Testament, c'est pas les Évangiles, c'est plutôt la tradition locale. Voilà, c'est plutôt la tradition locale en Espagne.
Parce que ça fait un sacré parcours.
Ça fait un sacré parcours.
Remonter l'Espagne, la Galice, c'est en haut.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, les compagnons de Saint Jacques rentrent alors dans les terres et enterrent le corps de l'apôtre. L'emplacement de ce tombeau a été perdu en fait jusqu'au 9e siècle. Alors, d'après toujours la tradition. La redécouverte de ce tombeau est l'œuvre de l'ermite Pélagius, qui vivait en 813 dans les bois près de la future ville de Compostelle. Le tombeau lui serait apparu en songe et il aurait été ensuite guidé par une pluie d'étoiles jusqu'au tombeau.
Ouais.
Ce lieu a pris le nom de Champ des Étoiles ou en latin Campus Stellarum. Campus Stellarum, Compostelle.
Campus Stellarum. Oh là là, oui, d'accord.
Tu vois, la racine de l'étymologie du mot Compostelle,
d'accord.
C'est Campus Stellarum, donc champ des étoiles.
D'accord.
Voilà. L'ermite avertit Théodomir, évêque d'Iria Flavia.
Oui.
C'est avant Compostelle,
le
c'était l'évêché du coin.
Ouais.
Et l'évêque avise le roi Alphonse II. Qui fait tout de suite, très rapidement, édifier une église pour abriter les reliques de Saint-Jacques. Le roi encourage également l'instauration d'un pèlerinage vers la tombe de l'apôtre. Le pèlerinage est né.
D'accord.
La découverte des reliques survient à un moment très important dans l'histoire de l'Espagne. Il s'agit du début de la Reconquista royaumes musulmans de la péninsule ibérique par les rois chrétiens.
Le tout début, voilà. Parce que ça a mis un paquet de temps.
Et Saint-Jacques devient... officiellement, et il l'est toujours, le protecteur de l'Espagne, sous un nom très très guerrier, voire même très sanglant.
Ouais.
On voit beaucoup de représentations qui le représentent comme ça. Hein. Ouais. C'est Santiago Matamoro, Saint-Jacques le tueur de mort.
Tu vois,
c'est pas... C'est... Alors, beaucoup de représentations en Espagne. Alors nous, Saint-Jacques, quand tu le vois en France, c'est toujours un pèlerin.
Il a toujours le grand chapeau, tranquille, le bâton, relax,
avec les coquilles, soit sur le vêtement, soit sur le chapeau.
En Espagne, c'est un soldat.
En Espagne, il y a les deux. Il y a le pèlerin, mais il y a aussi, et peut-être surtout, Saint-Jacques en armure.
Eh oui.
Avec le chapeau, toujours le chapeau de pèlerin avec la coquille, des fois la coquille aussi sur son armure. Ouais. Il est à cheval en train de brandir une épée et son cheval est en train de piétiner des morts.
Eh oui.
Voilà.
Parce que
en Espagne...
Et cela dit, les armures en 800 et des poussières, ça n'existait pas.
Non, bien sûr.
Mais bon.
Non, mais ça, c'est la tradition.
Tu sais,
en art religieux, ce qui est très intéressant, c'est que, c'est ce qu'on apprend en histoire de l'art, quand tu vois un soldat peint au XVIe siècle, même si c'est un soldat romain, par exemple,
il porte
l'armure du moment où est peint le tableau. Donc c'est assez amusant et c'est chouette parce que moi qui aime bien l'uniformologie, ça permet de dater avec précision une sculpture, une œuvre. Alors il y a beaucoup de symboles pour Saint-Jacques. Nous c'est la coquille.
Ouais.
Chez eux aussi, en Espagne aussi, pardon. Mais aussi il y a une croix très spéciale en forme d'épée. C'est l'épée cruciforme de Santiago Matamoro.
C'est vrai qu'une croix d'une certaine façon, ça peut ressembler à une épée.
C'est ça. Alors au tout début de la Reconquista, il y a eu une grande bataille, dont j'ai totalement oublié le nom, désolé, où les armées chrétiennes affrontent les armées mortes.
Ouais.
Saint-Jacques serait apparu en armure, sur un cheval, fonçant vers les morts. Et alors là, galvanisé, les armées chrétiennes auraient déferlé sur les armées mortes et les auraient gagnées. Donc tu vois, la tradition aussi, ça... De ce Santiago Matamoro vient de là.
Tu as une petite question?
Oui.
Parce que pour nous, le symbole le plus connu de Saint-Jacques, c'est la coquille, comme tu dis, la coquille. Saint-Jacques, voilà. Et ça, on connaît l'origine de ce symbole-là, d'où ça sort
Oui, tout à fait.
C'est quoi?
La Galice.
Oui.
Puisqu'on ne s'arrête pas forcément
qu'à Saint-Jacques. Ils font des huîtres.
On va après. Maintenant, ils font des huîtres. À l'époque, je ne sais pas, il y avait des huîtres peut-être un peu partout.
Ouais.
Mais c'était un coquillage qu'on trouvait beaucoup sur les côtes de Galice.
Ouais.
Et en fait, c'est devenu rapidement un symbole. Uh-huh. Et ce coquillage a pris le nom de coquille Saint-Jacques, uh-huh, parce que les pèlerins ramenaient, perçaient des trous.
Ah, en souvenir, ils étaient bien allés sur
voilà,
place.
Voilà, et ils le portaient comme les représentations de Saint-Jacques, ils les portaient sur leurs vêtements en rentrant du pèlerinage.
D'accord.
Maintenant, c'est aussi un symbole du pèlerinage. Beaucoup, beaucoup de pèlerins portent la coquille. Pèlerins ou pas pèlerins, il y a des pèlerins, il y a des marcheurs. Tout le monde ne fait pas ça dans un but spirituel ou religieux. Mais voilà. Et pour se reconnaître, même en y allant, on a la coquille.
D'accord. Voilà. Parce que la coquille, au-delà de ça, je suis sûr qu'il y a une réflexion derrière, un symbole philosophique autour de la coquille, il y a quelque chose. Parce que sinon, bon, je veux bien qu'il y ait des... Bien sûr,
sûrement,
il y a des coquilles en galisme, enfin, il y en a ailleurs.
Sûrement.
Et puis sinon, tu ramasses un galet, c'est pareil.
La coquille, moi je vois pour les baptêmes, c'est beaucoup utilisé, tu sais, pour ramasser l'eau dans la cuve baptismale et la mettre aussi sur le front.
Et c'est ce que j'allais
alors
dire.
Alors peut-être...
Il me semble qu'il y a certaines... Je ne sais plus que ça s'appelle le récipient pour les baptêmes. Là.
La cuve baptismale.
Il y en a certains qui ont des formes de coquilles.
C'est un bénitier.
Oui,
le nom du coquillage. C'est le bénitier, voilà.
Tu vois, il y a quelque chose.
Donc, on est proche, mais c'est pas encore la coquille Saint-Jacques.
D'accord.
Alors, le pèlerinage de Compostelle devient très rapidement un des trois grands pèlerinages de la chrétienté.
D'accord. Les deux autres, c'était quoi ? C'est Jérusalem
et Rome.
Ah, bah oui,
voilà.
Rome, évidemment.
Rome et Jérusalem.
D'accord.
Alors, les pèlerins arrivent en Galice au tout début par la mer.
Oh là.
Les routes sont extrêmement dangereuses.
Ouais.
En 951, Godescalc, évêque du Puy-en-Velay, est le premier chrétien. Et le premier pèlerin, non espagnol, à faire le pèlerinage.
Ah, d'accord.
À son retour, il encourage ses fidèles à le faire eux aussi.
Alors lui, mais Puy-en-Velay, il l'avait fait à pied.
Je sais pas.
Il faut aller chercher la mer.
Sûrement, parce que prendre le bateau pour la mer du Puy-en-Velay, c'est pas évident.
Ou alors tu vas vers Bordeaux, peut-être. Je sais pas.
Bon, alors, en 960, tu vois, on est 9 ans après,
ouais.
Raymond II, comte de Rouergue,
oui,
est tué par les Sarrasins. Alors qu'il se rendait à pied vers Compostelle.
Ah.
Lui, il l'a fait à pied et mais malheureusement, il n'est pas revenu comme beaucoup de pèlerins. Hein.
Ouais, bien sûr.
C'était extrêmement dangereux. Même encore, il y a des pèlerins qui meurent.
Ah ouais, ils sont pas...
En France, on ne voit pas.
Ouais.
On ne sait pas s'ils meurent ou pas.
Ouais.
En Espagne, je peux te dire que sur le chemin,
ouais,
il y a pas mal de croix, souvent avec la photo du pèlerin, la date de décès, tout ça. Souvent, c'est des personnes d'un certain âge, tu vois, infarctus ou une chute.
Puis en plus de temps, il doit y en avoir du panneau.
Oui. Alors, sur les chemins de Compostelle, on construit au Moyen-Âge des ponts, des abbayes, des églises, mais également des villes.
Ah,
il y a beaucoup de villes, notamment en Espagne, qui ont été créées uniquement parce que le chemin de Saint-Jacques passait par là.
Oui.
Et en fait, elles vivront, ces villes-là, et même encore, de l'argent des pèlerins.
Oui, bien sûr. Bah,
c'est une manne, vraiment une manne.
Comme la route nationale 7 à son époque.
C'est ça,
tout à fait. Toutes les villes sur la route vivaient des gens qui empruntaient cette route pour partir.
Tout à fait. Et même pour le pèlerin, c'est pratique parce que ça fait des haltes
régulières.
Comme aujourd'hui, on a des haltes régulières. Tu sais que tous les temps de kilomètres, tu as un gîte privé ou un gîte public.
Bah, beaucoup de villes françaises sont nées comme ça.
Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, le pèlerinage atteint son apogée au XIIIe siècle avec plusieurs centaines de milliers de pèlerins chaque année.
Ah ouais, dis donc, oui.
Avec les idées nouvelles du XVIIIe siècle et aussi la terrible campagne d'Espagne de Napoléon, le pèlerinage tombe peu à peu dans l'oubli.
Ouais.
Il faudra attendre 1950 pour qu'il se réveille à nouveau avec la création de la Société des Amis du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle à l'occasion du millénaire du pèlerinage de l'évêque du Puy.
Ah ouais, 1950.
Ouais.
Oui, on est dans ces
1950,
ouais,
on l'a vu, on vient de le voir, en 950.
Ouais.
En 1982, Jean-Paul II vient en pèlerin à Compostelle.
Uh-huh.
Alors là, super pub. Hein. En 1987, le Conseil de l'Europe déclare les chemins de Saint-Jacques premier itinéraire culturel en Europe.
Ah tiens.
En 1993, le Camino Francés, c'est-à-dire c'est la voie
principale. La partie française.
La voie principale. Ouais. Du chemin de Saint-Jacques en Espagne.
Ah d'accord.
Comme il vient de France,
le Camino
français. Le Camino
français. Ouais, ouais. Ok, d'accord.
Est classé patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ouais.
En 1989, Jean-Paul II revient à Compostelle pour les 4e journées mondiales de la jeunesse.
Ah oui, j'ai connu ça à Paris, moi. Je me rappelle encore, dis donc.
C'est vrai.
Ah,
c'était Jean-Paul II.
Ah,
aussi. C'était Jean-Paul II. Énorme. On compte actuellement près de 3 millions de pèlerins par an.
Eh oui.
Surtout les années jacquaires. C'est-à-dire une année jacquaire. C'est quoi en fait? C'est la Saint-Jacques, ça tombe tous les 25 juillet.
Ouais.
Et c'est une année vraiment de fête et une année vraiment particulière quand les 25 juillet, donc la Saint-Jacques, tombe un dimanche.
Tout à fait. Donc ça arrive tous les 6, 7 ans.
Mais ça arrive régulièrement. Alors en France, les itinéraires de chemin de Saint-Jacques sont tracés par la Fédération française de randonnée pédestre depuis les années 70.
D'accord. Donc l'église n'a rien à voir sur le chemin.
C'est lié.
C'est lié,
mais si tu veux.
C'est la Fédération française de randonnée.
En France, les chemins de Saint-Jacques reprennent les GR.
Oui.
Les chemins de grande randonnée.
Ou c'est plutôt les GR qui doivent reprendre en partie certaines parties du chemin de Saint-Jacques, moi je pense. Chronologiquement.
Et encore, les chemins changent régulièrement parce que des fois ils les dévient, ça change.
D'accord.
Ouais. Moi j'ai des vieux topo-guides où.
Pour le chemin de Saint-Jacques.
Le chemin a changé très peu.
Ouais.
Mais ça m'est arrivé.
D'accord.
Ouais, ça m'est arrivé.
Okay.
D'où l'intérêt quand on achète des topo guides, je vous parlerai de ça à la fin.
Mais d'acheter les derniers.
D'acheter vraiment les derniers, parce que comme moi, ça m'est déjà arrivé, notamment sur l'Aubrac, d'être obligé d'enjamber quelques clôtures bien hérissées, parce que le chemin avait changé.
D'accord.
Et j'avais un topo guide qui avait 2 ou 3 ans. Alors, il existe 4 chemins principaux en France.
Ouais.
Je dis principaux parce qu'après, il y a plein de petites voies secondaires, de petits chemins ou de variantes. Alors, je vais vous les citer. La Via Podensis, la voie du Puy-en-Velay, qui est la plus ancienne et qui fait 1530 km jusqu'à Saint-Jacques.
C'est pas celle-là qui passe par l'Aveyron ?
C'est celle-là,
voilà.
Tout à fait. Alors, donc, c'est vraiment celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous avons ensuite la Via Lemovensis.
Bien.
C'est la voie de Limoges, qui est appelée également voie de Vézelay parce qu'elle part... elle commence son chemin en fait à Vézelay.
Okay.
Elle fait 1750 km. Nous avons également la Via Turonensis, la voie de Tours,
la ville de Tours.
Mais qui elle aussi ne part pas à Tours, ne part pas de Tours, elle part d'une tour.
Ah d'accord.
Elle part de la Tour Saint-Jacques à Paris.
Ah oui, que je connais bien.
L'ancienne église Saint-Jacques de la Boucherie.
Bien sûr.
Voilà,
oui.
Qui a été détruite à la Révolution.
Il reste que
le clocher, que la tour. Alors, elle fait 1460 km. Et pour terminer, nous avons la Via Arelentensis, la voie d'Arles, qui passe par Toulouse et qui fait un total de 1590 km.
D'accord.
Donc, ce sont les quatre voies principales. Elles rejoignent donc l'Espagne. Et en Espagne, il y a 2 voies également principales. C'est le Camino Frances dont on a parlé tout à l'heure. Et également le Camino Primitivo, le chemin primitif qui longe la côte, qui est très, très sportif, vraiment très, très sportif.
Dur.
Ouais, il y a très peu de monde.
D'accord.
Les gîtes aussi, c'est un peu compliqué. Voilà, là, on va dire que le Camino Frances, c'est vraiment l'autoroute, l'autoroute à pèlerin.
Okay.
Il y a d'autres voies. Il y a aussi la voie qui part du Portugal, la voie qui part de Fatima jusqu'à Saint-Jacques. Alors. Comme je vous l'ai dit au début, moi j'ai fait 3 fois le chemin de Saint-Jacques. Entre 2005 et 2008, pour le premier, en 2011 pour le second et en 2012 pour le troisième.
Ah bah dis donc, ouais.
Alors j'attends ta remarque.
Parce que
2005-2008 pour le premier.
Quoi, t'as mis 3 ans?
J'ai mis 3 ans.
T'as mis 3 ans pour le faire?
Alors en
non,
fait...
Non mais t'es revenu à la maison.
Alors en fait,
t'es
voilà.
T'es pas parti 3 ans avec ton baluchon.
Non. En fait, ce qui est intéressant avec le chemin de Saint-Jacques, c'est qu'on le fait comme on veut.
Eh oui, oui.
Soit on le fait d'un trait.
Oui.
Moi ça a été le cas pour mes 2 derniers chemins.
D'accord.
Mais le premier, moi je savais pas du tout si j'étais capable de marcher ou pas.
Tu m'étonnes, ouais.
Donc... Je suis parti un jour, j'ai voulu partir de l'Aveyron, je suis parti de Conques jusqu'à Rocamadour, 100 km,
déjà.
5 jours,
oui.
Ça m'a vachement plu,
oui.
Et l'année d'après je suis revenu, là où j'avais laissé le chemin, je suis allé jusqu'à Moissac,
Tarn-et-Garonne.
Voilà, l'année d'après je suis revenu à Moissac, j'ai fait Moissac, Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ouais, belle étape.
Saint-Jean-Pied-de-Port, belle étape déjà.
Ouais.
Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, la frontière avec l'Espagne. Et je suis revenu l'année d'après pour faire la fin, c'est-à-dire les 780 km qui séparent Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, il faut compter un mois, je fais ça en 30 jours.
À pied.
Jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Je
me suis dit, ça m'avait vachement plu, je me suis dit, oh quand même, il me manque le début. Donc je suis revenu.
Ouais.
L'année encore après, pour faire ce qui me manquait, avec peut-être une des plus jolies parties aveyronnaises, je suis parti donc du Puy-en-Velay,
oui.
jusqu'à Conques.
Ah, donc c'est en là passant, que passant par l'Aubrac.
Par l'Aubrac. Ah, voilà.
Super.
Tout à fait.
Super.
Ouais, c'est vraiment sympa. Donc tu vois, comme je te disais, c'est vraiment un chemin à la carte. On fait vraiment ce qu'on veut.
Ouais,
chacun est libre. Et puis de toute façon, c'est un chemin personnel, hein, le
oui,
chemin de Saint-Jacques.
Oui, oui, oui.
Et puis il y en a beaucoup qui le font parce que les gens n'ont pas forcément un ou deux mois de vacances. Ah, moi, je travaillais dans l'éducation. J'avais pas tout à fait deux mois. Moi, j'ai quitté l'Aveyron pour habiter en région bordelaise où j'ai vécu pendant 15 ans. Et en fait, ben voilà, j'avais à nouveau envie, quelques années après, de refaire le chemin. Je suis parti de chez moi en 2011. Et là, j'ai rejoint la voie de Vézelay. Vézelay, c'est une des deux voies qui passe à Bordeaux. Mmh. Il y a la voie de Tours et la voie de Vézelay qui passe pas par Bordeaux, mais par la région bordelaise. Mmh. J'ai marché 45 jours et j'ai parcouru 1350 km.
Ouais, bah bravo.
Pas jusqu'à Saint-Jacques.
Ah.
Après.
Je
suis encore arrivé à Saint-Jacques.
T'as poussé jusqu'à Jérusalem.
On se refait un peu plus. Puis c'était pas, surtout que c'est pas la bonne direction.
Alors ça fait vraiment un grand tour.
Ou alors oui, j'aurais fait vraiment un grand tour. En fait non, quand t'es à Saint-Jacques-de-Compostelle, tu marches 5 jours de plus.
Ah bon?
Et tu arrives au Cap Finistère.
Oui,
la fin des terres, la fin du monde connu.
Parce qu'il y a un Finistère aussi en Espagne.
Il y a aussi un Finistère.
Parce que Finistère, comme son nom l'indique, c'est là où se finit la terre.
Finistère.
Voilà. Donc il y a le Finistère français, la Bretagne.
Le bout du bout.
Le bout de la Bretagne. Et puis là, en Espagne, ils ont pareil, même mieux. Parce que si tu regardes l'ouest, ils sont plus à l'ouest que nous.
Tout à fait. Okay. Et puis Muxia.
Murcia.
Muxia qu'on a vu au début.
Oui.
C'est un très joli petit port de pêche,
ouais.
Où l'ange aurait débarqué le corps de Saint-Jacques et ses compagnons sur la plage de Muxia. C'est vraiment cet endroit-là. Il y a une énorme pierre avec une forme un peu particulière. La tradition raconte que c'est la voile du bateau de Saint-Jacques qui se serait fossilisée, changée en pierre. Mmh. Donc voilà, tu sais, toute une série de légendes et de traditions. Donc tu vois, le chemin de Saint-Jacques, je l'ai fait.
Tu connais.
Et puis je le refais encore une troisième fois. Quand on aime, on compte pas.
Exactement.
J'ai jamais eu l'occasion, peut-être un jour, mais c'est vrai que moi, ce qui m'aurait tenté, tu vois, c'est la voie portugaise, qui est beaucoup plus courte.
Oui.
Mais qui est aussi très très sympa.
Qui doit être belle aussi.
Alors, c'est peut-être la plus chaude au niveau
ouais,
température.
Oui, sûrement. Ouais.
Mais revenons à la voie du Puy-en-Velay, puisque donc, comme je vous l'ai dit, c'est celle qui passe par l'Aveyron. Alors, les départements. On visite vraiment la France et puis aussi l'Espagne. On commence par la Haute-Loire, la Lozère, l'Aveyron, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
Ouais.
Et le Camino Frances passe par les provinces espagnoles de Navarre, La Rioja. Alors là, tu peux faire la tournée des vins, entre la Navarre et la Rioja, déjà, ils ont du bon vin.
Oui.
La Castilla y León,
oui.
Donc la région de León, et la Galice.
Voilà.
Voilà, où se trouve Compostelle.
Nord-ouest de l'Espagne.
Tout à fait. Le chemin aveyronnais est vraiment très beau. Il traverse le département d'est en ouest sur 102 km au total.
Ah ouais, dis donc.
Il commence, bien entendu, sur les monts d'Aubrac et se termine à Livignac-le-Haut, un peu avant Figeac.
Ouais, je vois.
Il passe par les villages d'Aubrac, avec sa fameuse tour des Anglais et son église abbatiale, Saint-Chély-d'Aubrac, Saint-Commodolt et son très beau clocher tort, Espalion et son beau pont médiéval et également ses musées, Estain et son magnifique château.
Ah ben, bien sûr que...
On en a parlé il n'y a pas longtemps.
Dans une précédente émission.
C'est ça. Et également, bien entendu, le superbe village de Conques, avec son église abbatiale, ses vitraux de soulage.
Mmh.
Alors Conques, si vous vous y arrêtez en tant que pèlerin, vous y serez accueillis et logés par mes amis, les frères Prémontré. Qui sont habillés tout en blanc, tout de blanc vêtu.
Oui.
Ensuite, de Cazeville et son passé minier.
Ouais.
C'est pas là.
Non, c'est pas pour ça que ça passe par là.
C'est pas l'endroit que je préfère le plus.
Ouais.
Et on termine donc à Livignac-le-Haut, qui surplombe la vallée du Lot et qui donc termine ce chemin aveyronnais de Compostelle. On voit vraiment notre département et de notre. Mais moi qui connais bien l'Aveyron, on le voit vraiment dans notre visage.
Ah bah
visage,
oui,
quoi.
Oui, parce qu'on passe par des chemins différents.
C'est ça, on est souvent sur les crêtes. Même de Cazeville, tu vois, j'aime pas trop la région de Cazeville au niveau paysage, mais on est sur les crêtes et en fait, on voit juste des Cazeville quand on descend sur de Caz et on remonte pour franchir des collines avant la vallée du Lot. J'ai découvert autrement le département de l'Aveyron. Puis on prend le temps, quoi, puisqu'on est vraiment à pied. pour voir vraiment, vraiment plein de choses. Alors moi, ce que j'ai vraiment préféré sur le chemin de Saint-Jacques en Aveyron, c'est bien entendu, sans hésitation, la traversée de l'Aubrac qui est vraiment extraordinaire. La nuit aussi passée dans la Tour des Anglais, au village d'Aubrac, c'est quand même sympa. Tu n'y rentres jamais dans ce tour, sauf là, puisque c'est un gîte pour pèlerins, un gîte communal, je crois. La superbe chapelle de Perse et son tympan roman qui se trouve dans le cimetière d'Espalion.
D'accord.
Beaucoup de gens ne la connaissent pas.
Non.
La très 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 belle chapelle aérienne à Saint-Georges, à Saint-Michel, pardon, qui se trouve au sommet de l'église de Saint-Pierre de Bessuéjoul. Tu connais ?
Non.
C'est vraiment à faire.
Ouais.
Vraiment à faire.
Ouais.
C'est à quelques kilomètres d'Espalion. C'est bien indiqué.
D'accord, ouais, c'est pas si loin.
Estaing, bien entendu, et son château. Mmh. Et bien sûr, pour terminer, on termine presque. Enfin, c'est pas encore la fin du chemin aveyronnais, mais c'est une apothéose, bien sûr, avec l'arrivée sur Conques.
Ah, oui,
et puis voilà, tout ce qu'on peut voir là-bas et vivre en tant que pèlerin. Alors, je t'ai apporté quelque chose.
Oui.
Voilà, tu vois, regarde, ce sont mes créanciales.
C'est quoi des créanciales ? T'as des dettes ? Tu dois des souhaits à
quelqu'un ? Alors, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais presque, on dirait.
Ouais.
Alors, la créanciale, c'est le passeport du pèlerin.
Ah,
ça
super.
Se déplie.
Ouais, ouais, ouais.
Et chaque jour, tu dois faire tamponner ta créanciale là où tu t'arrêtes.
Ah, c'est beau. Hein.
Alors, certains le font tamponner partout où ils passent, les églises, les musées, les mairies.
Toi aussi, non ? Parce qu'il y en a 40.
Non, 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 c'est un par jour.
Ils sont beaux, les tampons. Hein.
Ouais, il y a des tampons qui sont vraiment magnifiques. Et en fait, ce document est très important puisque c'est la preuve que le pèlerin fait bien le chemin de Compostelle et qu'il peut accéder aux gîtes qui sont réservés aux marcheurs et aux pèlerins.
Ah d'accord, pour accéder aux gîtes, il faut que
c'est vraiment pas cher les gîtes.
Oui,
si
bien
tu
sûr,
veux.
Ok. Ouais.
Et donc, bon, c'est spartiate. Des fois, c'est des.
Ah bah,
des fois, c'est des dortoirs. Hein, ouais. Le plus gros dortoir que j'ai fait qui n'existe plus, maintenant c'est tout neuf, c'est magnifique.
Ouais.
C'est. Quand tu arrives en Espagne, j'ai dormi dans un gîte à Roncevaux, chez les moines.
Ah,
j'ai dormi dans un gîte qui était dans une ancienne église. On a dormi dans la même pièce à 200 personnes.
Ah bah, ça doit être sympa.
Bah ouais, quand t'as quelqu'un qui ronfle, même s'il est à l'autre bout, tu sais, c'est pas... Alors, à l'arrivée à Compostelle, ce document est contrôlé par un organisme qui dépend de l'évêché de Compostelle.
Ah, bon.
Et si vous avez bien fait toutes les étapes, sans en sauter une, il y en a qui sautent, il y en a qui en font en bus. Donc ils connaissent bien, si tu veux, et ils voient vraiment si ça colle ou pas. Moi, j'ai vu des gens se faire recaler parce que une petite demoiselle bien frêle, si tu veux, qui n'était pas capable de faire 40 ou 50 kilomètres dans la journée. Mmh. Et ses tampons disaient qu'elle avait fait 50 kilomètres entre les deux étapes. Ouais. Et là, on lui a dit, mais vous l'avez fait en bus. ben oui. Mais donc, voilà, pas de bras, pas de chocolat.
Oh la vache.
Ah oui, c'est assez strict. D'accord. Parce qu'en fait, cet organisme qui contrôle ce passeport, c'est pas une obligation, mais bon, voilà, vous remet un diplôme,
un certificat
qui s'appelle la Compostella. Et qui indique que vous avez bien fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, alors à pied ou en vélo. Vous pouvez
d'accord,
également le faire à pied ou en vélo.
D'accord. Il y a vraiment des tampons qui sont magnifiques.
Hein. Ouais, il y en a vraiment des très beaux. Puis ça fait des beaux souvenirs.
Ah, ouais,
en plus.
Ouais,
ça fait des bons souvenirs.
Ouais, tout à fait.
Alors, la créanciale se demande à votre évêché, si jamais ça
d'accord,
vous intéresse.
Ouais. Ça a la forme d'un petit calepin, comme une carte, les anciennes cartes.
Qui se déplie,
ça se déplie, voilà. C'est...
Avec une case à chaque fois,
voilà.
Enfin, plein de cases.
Ah, ouais.
Et en fait, donc, c'est la créanciale qu'on demande à l'évêché quand on fait le chemin au niveau religieux ou spirituel.
Ouais.
Si vous le faites de manière sportive, il existe le même document qui s'appelle la crédentiale.
D'accord, mais ça, on va pas la demander à l'évêché.
Non, ça, vous la demandez à l'association des amis de Saint-Jacques.
Voilà, d'accord.
Voilà. Okay. Un vieil adage dit, le chemin de Saint-Jacques, on y va marcheur et on en revient pèlerin. Moi, je peux vous certifier qu'effectivement, ça vous change énormément de faire ce chemin. Entre tout ce qu'on vit dans ce chemin, les rencontres que l'on fait... les joies, puis les souffrances aussi, parce que bon...
Oui, ça peut pas être marrant tous les jours.
Il y a certains soirs où on a un petit peu mal partout. Ouais. Donc c'est vraiment ça vous change un homme, c'est vraiment riche d'enseignements. Si vous voulez des renseignements sur ce chemin de Saint-Jacques, n'hésitez pas à aller sur Internet.
Ouais.
Vous avez de très 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 beaux sites qui sont faits sur le chemin de Saint-Jacques, qui vont vous donner plein de conseils, également des films, Saint-Jacques Lamèque, qui est rigolo, qui voilà, un film américain qui est très beau qui s'appelle The Way, le chemin, qui est vraiment très très beau là, que je conseille à tout le monde. Et aussi vous avez, donc j'en parlais au début, des topo guides qui sont vraiment très très bien faits sur le chemin de Saint-Jacques, très précis, très détaillé. Il est quasiment impossible, sauf si on dort en marchant, de se paumer sur le chemin de Saint-Jacques. Ouais. C'est vraiment très bien fléché, avec des cordes spéciaux. On peut pas se tromper. Et également, vous avez un nom très rigolo. Vous avez le Miam Miam Dodo à acheter obligatoirement. Alors, mon épouse, que je salue, m'a dit surtout n'oublie pas de parler du Miam Miam Dodo, parce que alors rien que ce nom l'amuse énormément.
Ouais, il est marrant. C'est comme un guide du petit routard, mais pour.
Mais pour Miam Miam et Dodo.
Voilà.
Okay. Pour manger, dormir, c'est la Bible du chemin.
Ouais.
Dessus, vous avez tout sur le chemin, chaque village, chaque hameau, chaque ville, vous avez les postes avec les horaires d'ouverture, les mairies, les horaires d'ouverture, s'il y a des distributeurs de billets ou pas, même l'horaire des messes, tu vois, tout, mais sur les pharmacies, on en a besoin.
Pour les ampoules.
Pour les ampoules, ça vous apprenez à le dire en espagnol, ampolla, mais ça, on est obligé d'en avoir, ouais, des ampoules, mais c'est vraiment un très 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 beau chemin. Moi, je le conseille à tout le monde. N'hésitez pas en cette période d'été. En Aveyron, le chemin est très beau. Moi, je connais beaucoup de gens qui vont sur le chemin, mais ne serait-ce qu'une journée Espalion-Estaing, ou c'est vraiment très très beau. C'est très bien balisé. C'est vraiment super. Moi, j'ai beaucoup aimé, et voilà, j'espère vous avoir fait découvrir avec cette chronique et vous avoir fait apprécier nos richesses culturelles, historiques, comme ce chemin de Saint-Jacques.
Et tu retournes là pour tes vacances cet été, une quatrième ?
Non.
Non,
non, pas cet été.
Bon, alors, je ne te demanderai pas ta destination de vacances.
Oh, mais je reste en Aveyron.
Ah, bah, c'est bien.
Voilà.
Bah, profites-en bien en tous les cas. Merci beaucoup, Vincent, pour cette nouvelle émission. C'était la 40e aujourd'hui de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez. Petit congé là pour cette fin juillet et le début du mois d'août. Et puis, on se retrouve à la rentrée quand tu veux.
Et bon, on se retrouve à la rentrée.
Une nouvelle série d'émissions pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup, Vincent.
Merci. Passez de bonnes vacances. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.